Alors, il est d'usage de faire une introduction pour les messages afin de capter l'attention. Et je vous propose ce matin de faire une petite devinette. Où est-ce que Pascal veut en venir ce matin? Essayez de deviner où est-ce que je vais en venir. Bon, le texte que je vais lire maintenant va vous mettre sur la piste. Vous pouvez prendre dans vos Bibles l'Épître aux Hébreux. Vous allez retrouver dedans un verset qu'a cité tout à l'heure Morel dans la méditation. Donc on va lire Hébreux chapitre 1 jusqu'au verset 4 du chapitre 2. Hébreux chapitre 1, verset 4, chapitre 2. Donc je vais lire dans la version seconde. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils ». Je t'ai engendré aujourd'hui. Ou encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. De nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit à des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au fils, ton trône, ô Dieu éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, tes années ne finiront pas. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ne sont-ils pas tous, en parlant des anges, des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut? Le salut d'abord, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit, distribué selon sa volonté. Seigneur, Père Céleste, je vais parler de ton Fils bien-aimé, celui dont on a entendu tout à l'heure qu'il faisait tout ton plaisir, toute ta joie. C'est ce texte qui parle de lui. Aide-nous, Seigneur, à être rafraîchis dans notre foi, dans notre joie, dans notre adoration, dans le nom, le si beau nom de Jésus, le si beau nom que nous aimons. Merci Seigneur de répondre à cette prière pour nous, dans le nom de ton Fils. Amen. Amen. Alors ce que le Fils de Dieu a fait, ça commence par là. Le Fils nous a parlé. Il nous a parlé, Dieu nous a parlé par le Fils. Le Fils nous a parlé. Des personnes l'ont entendu comme vous m'entendez maintenant avec leurs deux oreilles en stéréo. Ils devaient même connaître l'intonation de sa voix, reconnaître sa voix. Il a aussi parlé dans les évangiles, rempli des paroles que Jésus a dites. Et il nous parle aussi de façon merveilleuse par le Saint-Esprit qui nous a donné. Ce que le Fils de Dieu a fait, il nous a parlé. Le texte dit qu'il a aussi créé l'univers. Alors, c'est pas quelque chose qui peut être un petit peu surprenant, hein, comment Jésus de Nazareth est en même temps Jésus de Nazareth, et c'est en même temps celui qui a créé l'univers. L'apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens, au verset 16, enseigne clairement cela, lui aussi. Tout a été créé par lui et pour lui. On a lu ça la semaine dernière. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 3, toutes choses ont été faites par la parole étant Jésus. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il y a des fois des anecdotes qu'on entend comme ça. Aux États-Unis, c'est un pays où il se passe tellement de choses qui sont pas ordinaires. Et des fois, on entend ces histoires où voilà, il y a plein de milliardaires là-bas, de gens comme ça, de gens qui sont très riches, très célèbres. Et des fois, ils s'habillent avec des habits de gens de tous les jours et ils vont dans des, on dit qu'il y a une particulièrement j'ai oublié son nom, rentrer dans un endroit, un bar, restaurant très populaire, et là, il mange avec les gens, il se mélange aux autres, et il discute. Et puis, voilà, à la fin, quand il repart, ben voilà, il sort une grosse liasse de billets, voilà, aujourd'hui, c'est gratuit pour tout le monde. Et voilà, on le reconnaît alors. Et puis, les gens se disent, ah, moi, j'ai parlé avec telle personne, mais comment cela est possible? Comment j'ai pas pu le reconnaître? Et c'est peut-être une image un petit peu de qui est Jésus, à la fois Jésus de Nazareth, si proche de nous, et à la fois le créateur de l'univers. C'est comme ça. Il soutient tout par sa parole, toute chose par sa parole. Soutenir, c'est porter, c'est supporter. Et on dit que Dieu a le monde dans sa main. Voilà cet extrait du livre de Job, chapitre 12, versets 6 à 10. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît pas chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair. Ça, c'est Job 12, 6 à 10. Je ne vais pas résister à vous citer un extra, le psaume 95. Venez! Chantons avec allégresse, avec joie l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen, Seigneur Jésus. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va citer ce verset à deux reprises, il me semble, dans son argumentation. Il soutient tout par sa parole. Il est l'exécuteur de salut. C'est lui qui a tout fait. Il a fait, Dieu le Père a ordonné, Jésus-Christ a fait. Il a fait l'univers, il a exécuté aussi le salut. C'est lui le Fils qui s'est incarné, a souffert le mépris, a agonisé dans le jardin de Gethsémané, a été livré à la méchanceté des hommes, est mort, crucifié pour nos fautes, nos péchés, a été mis au tombeau et ressuscité le troisième jour. Et donc on comprend que Jésus-Christ soit celui en qui Dieu prenne tout son plaisir. Et Dieu a donc élevé son Fils au-dessus de tout. Et bien sûr, il le mérite. Il le mérite. Notre texte insiste en près pour dire que le Fils est supérieur aux anges. Le Fils est supérieur aux anges. Auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ?» C'est le psaume 2, l'onction et le règne de Jésus-Christ. « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Extrait de 2 Samuel 7,14, l'alliance que Dieu a fait avec David. Et juste le verset 13 qui précède dit « Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. » Et cette maison, c'est nous, son Église. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Une citation du psaume 97. L'Éternel règne et là, il est assimilé au Fils. Ensuite, il a fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Les anges font partie de la création de Dieu. Le psaume 104 parle de la création de Dieu, de tout ce que Dieu a créé, des anges et des hommes. Mais le Fils de Dieu n'est pas dans cette liste. Le Fils ne fait pas partie de la création de Dieu, bien sûr. Psaume 45 ensuite. Dont on a cité tout à l'heure, donc ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton trône est un sceptre d'équité, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. C'est la psaume des noces du roi, le psaume 45, où le Messie dedans est appelé Dieu. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes frères. Ensuite, la citation suivante au verset 10. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne se finiront point. Le psaume 102 est appelé ici dans l'argumentation. Et dans le psaume 102, c'est le psaume où le malheureux crie et où il est sauvé. Il est sauvé. Le Fils de Dieu est éternellement le Sauveur. C'est frappant comme il est ici identifié à Dieu lui-même. à travers ses nombreuses citations de psaumes, et particulièrement celui-là. Le Fils de Dieu est éternel et il est sauveur. Et enfin le psaume 110. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le psaume 110 est le psaume avec lequel Jésus a confondu les scribes qui l'assaillaient de questions pour le tester. Et lui, il leur a posé une question à partir de ce psaume, vous savez. Et puis ils ont eu la bouche clos. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est supérieur aux anges. Et notre texte poursuit, c'est pourquoi nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Si vous connaissez l'épître, cette épître aux Hébreux, vous savez que l'auteur, qui n'est pas précisé, mais il est inquiet pour ses frères et ses sœurs qui sont, on comprend, des Hébreux, des Juifs. Il est inquiet pour eux qu'ils ne soient emportés loin de la foi. L'appréciation que nous avons de la valeur de notre salut dépend de l'appréciation que nous avons de la valeur du sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix. Et la valeur du sang de Jésus-Christ versé à la croix dépend, la valeur dont nous le percevons dépend de la valeur dont nous percevons Jésus-Christ lui-même. Les premiers lecteurs juifs semblaient passionnés par ce qu'on appelle l'angéologie. C'est difficile à prononcer. C'est quoi? C'est l'étude des anges, de leur nom, de leur place dans la hiérarchie divine, de leur rôle. Et ça devait être quelque chose à ce moment-là dans le judaïsme qui prenait de la place. Et l'auteur veut détourner les regards de ses lecteurs pour les tourner vers Jésus-Christ qui est infiniment au-delà et au-dessus de tous les anges. Il le fait par la parole de Dieu. Il ne rentre pas dans les histoires de tradition qui ont établi les hiérarchies, les noms et tout ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qui aujourd'hui, pour nous à Figeac, peut nous faire négliger ce si grand salut, peut nous laisser être entraînés loin de lui? Quel est le rival de Jésus-Christ aujourd'hui? Alors, je dirais, et voilà où je voulais en venir, où je voulais vous conduire, quelque chose qui nous, avec laquelle on a bataillé. Jésus-Christ est supérieur à la science. Ce texte nous parle indirectement de cela. Jésus-Christ est supérieur à la science. Voilà, je voulais vous conduire, vous avez maintenant un petit peu le fil. Alors là, la science n'est pas mauvaise en soi. Vous savez ce que c'est les démarches scientifiques, je pense qu'on apprend ça encore. On constate quelque chose, on observe un phénomène, puis on observe, pose une problématique, et puis on émet des hypothèses pour l'expliquer. Et ensuite, on observe, on fait des expériences pour confirmer si nos hypothèses sont justes ou si elles sont fausses. C'est la démarche scientifique. Et donc, la science a permis et permet de découvrir les lois qui régissent notre univers. Mais s'il y a des lois, et les lois, elles sont là, ne serait-ce que la loi de la pesanteur, tout le monde y est assujetti, si les lois sont là, c'est qu'il y a un législateur qui les a mis en place. Tout simplement, il n'y a pas de loi sans législateur. Jésus-Christ est celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante, avons-nous lu. Mais lorsque la science cherche à connaître les origines de l'univers, elle sort un peu de son champ de compétences, parce qu'il est impossible de faire les expérimentations pour vérifier les hypothèses. Et cela devient une fausse science arrogante qui veut remplacer le créateur par des théories de la création. Mais la science n'est pas mauvaise en elle-même. Jésus-Christ a déployé les lois scientifiques. C'est lui qui a créé, qui soutient l'univers par les lois qu'il a établies. Et s'il est le législateur, c'est lui qui peut changer les règles à sa guise. Et c'est ce qu'on appelle communément les miracles, quand il se passe quelque chose qui sort complètement et qui enfreint les lois dûment établies. Mais le Fils de Dieu peut changer ce qu'il veut, comme il veut, pour faire une guérison, pour faire calmer la tempête, pour... Il est absolument maître et souverain sur sa création. Jésus-Christ a déployé les lois scientifiques. Il est supérieur à la science. Jésus-Christ est à l'origine de la vie. Alors, la génétique nous offre beaucoup de sujets d'émerveillement. Et l'information de la vie se trouve dans l'ADN et dans la première cellule qui nous a constitué à partir du départ d'une seule cellule. Ben il y avait là l'information complète de qui nous serions quand nous serions grands physiquement, à quoi on allait ressembler, et également est écrit la façon, le chemin dont toutes ces cellules allaient s'organiser, se multiplier pour arriver à cela. Alors c'est l'information qui sont là que les scientifiques ont découvert. Et il n'y a pas de génération spontanée de l'information. L'information, ça se génère pas spontanément. Hein. Jésus-Christ est celui qui a écrit l'ADN, dans l'ADN l'information de chaque espèce vivante que Dieu a voulu créer. Il n'y a pas de génération spontanée. Le psaume 104 que l'auteur a cité sur la création, un très beau verset que je vais vous lire. Verset 27. Tous les animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu leur donnes et ils la recueillent, ils ouvrent ta main, ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans la poussière. Verset 30. Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Chaque naissance est un miracle, chaque naissance est l'intervention de Dieu qui crée la vie. Et on peut dire, le hasard n'existe pas. Dieu avait décidé qui nous serions depuis toute éternité. Et il a écrit cela dans nos cellules. Jésus-Christ est là, l'origine de la vie. Le péché a introduit la corruption dans le monde. Toi, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés. La dernière fois, avec Pierre, on avait abordé le sujet de la fin de la terre qui serait qui périrait par le feu et pas pour rien, pour laisser la place à des nouveaux cieux, à une nouvelle terre où la justice habitera et qui sera bien sûr réservé pour ceux qui ont été dans la barque, dans le bateau du déluge, pour prendre cette image, ceux qui se sont placés leur confiance en Jésus-Christ ne passeront pas par ce terrible jugement par le feu. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. C'est ce « ils seront changés » qu'il faut retenir. Et juste avant, ils vieilliront tout comme un vêtement. Le monde vieillira. Il y a une loi d'un physique qui s'appelle l'entropie et qui dit que tout va vers le désordre. Quand vous faites un verre, vous buvez un verre de café, bah, si vous attendez, votre verre de café va se refroidir et après il sera imbuvable. Ou bien si vous aimez les bières bien glacées avec des glaçons, là au bout d'un moment elle va se réchauffer et puis elle sera imbuvable. La loi de l'entropie est personne, c'est une des lois fondamentales, et rien n'y échappe. Cette loi de l'entropie existe aussi dans la transmission de l'information, cette fameuse information qui est placée au départ dans nos cellules. Alors, vous avez peut-être joué à ce jeu dont on dit le téléphone arabe. Je ne sais pas si vous avez, quand j'étais jeune, joué à ça. Hein, vous chuchotez, vous choisissez une phrase que vous chuchotez à l'oreille de votre voisin, puis votre voisin la répéter à l'oreille de son voisin, etc. Et la phrase va faire tout le tour du groupe. Et à la fin, ben on se rend compte que c'est pas la même phrase. L'information a été modifiée, elle a changé. Et il y a un problème du même genre avec notre ADN. Il y a une perte d'information, des cellules qui se reproduisent, perdent un petit peu, l'information se dégrade à chaque renouvellement. Et c'est ce qui cause notre vieillissement. C'est ce qui cause aussi la détérioration du génome humain à chaque génération. Le génome humain vieillit. Depuis Adam et Ève qui avaient été créés avec une information vierge dès le départ, Dieu avait mis cette information parfaite. Et cette information, selon la loi de l'entropie de l'information, c'est perdu un petit peu à chaque génération. Et on sait bien que si nos premiers ancêtres vivaient très âgés, nous autres, sans l'assistance des médicaments, on n'irait pas loin. Hein. Ce serait une vraie hécatombe si on n'avait pas le secours du travail des médecins. Donc, l'évolution de l'humanité ne s'observe pas, mais c'est plutôt l'inverse que l'on observe si l'on veut être honnête. Le péché a introduit la corruption dans le monde, mais Jésus-Christ a fait la purification des péchés. La science décrit des lois physiques, mais la morale échappe complètement à ses compétences. Et l'être humain a un problème moral. Et la loi de l'entropie n'est là que pour nous en faire prendre conscience. Nous avons un problème moral. Nous nous sommes révoltés contre notre Créateur, celui qui nous a fait, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, celui qui nous a voulu de toute éternité. Alors c'est une vraie folie, c'est vrai, quand nous péchons. Et une grande sujet de tristesse. Jésus-Christ, notre Créateur, a payé notre repêchage, notre rachat, hein, en termes bibliques, en s'incarnant et en versant son sang à la croix de Golgotha. Alors Jésus-Christ est-il supérieur à la science? Oui, infiniment supérieur à elle. Alors allons-nous négliger le si grand salut qui nous est proposé? Non. Quelles applications pour nos vies? Alors, vous avez le droit de penser que je parle de choses qui me concernent. C'est vrai, je parle de choses qui me concernent. Mais je dis, nous avons besoin de remettre Jésus à sa place. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce que Jésus est vraiment dans notre conception à la place qui doit être la sienne? Je veux dire, est-ce qu'on le saisit? Est-ce qu'on le mesure? Est-ce qu'on le voit? Il me semble qu'on est souvent creux et inconsistant. On est vain, on est léger, comme la vapeur. Vanité des vanités, tout est vanité sans Jésus au centre de nos vies. Nous avons besoin de remettre Jésus à sa place. Nous avons besoin d'écouter Dieu. Et écouter Dieu, c'est écouter le Fils qui nous a parlé et qui nous parle encore à travers sa parole et par l'Esprit qui nous a été donné. Nous avons besoin d'écouter Dieu, prendre du temps à son écoute. Écouter Dieu, remettre Jésus à sa place, écouter Dieu. Et nous avons aussi besoin de méditer, de méditer. Les loisirs, les distractions volent notre temps de méditation. On est encombré de toutes sortes d'objets technologiques qui réclament notre attention. Ce sont des objets qui réclament notre attention et qui nous font prendre le temps de l'écoute de Jésus-Christ. Nous avons besoin de réfléchir calmement à la façon dont nous absorbons, nous recevons toute l'information qui arrive du monde qui ne veut pas marcher avec Dieu. De quelle façon y sommes-nous perméables? J'ai parlé bien sûr de la fausse science avec ses hypothèses farfelues en ce qui concerne les origines, mais en général, il s'agit de tout ce qui veut prendre l'autorité sur la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de compétiteurs qui sont là pour prendre l'autorité de la parole de Dieu pour nous. Nous avons besoin de méditer et de réfléchir. Remettre Jésus à sa place, écouter Dieu, méditer. Nous avons bien sûr besoin de parler à Jésus et de parler de Jésus. Parler à Jésus, le Fils de Dieu, c'est parler à Dieu. Parler de Jésus, le Fils de Dieu. Il est tellement super quand il est à sa place, quand on réalise qui il est, la façon dont il nous a créés, la façon dont il nous a rachetés, la façon dont il a été soumis au Père en toutes choses. Tout est un exemple pour nous extraordinaire dont on ne peut pas se lasser. En parler entre nous, en faire un sujet de conversation entre chrétiens, de parler de Jésus, c'est beau. Et en parler autour de nous, on l'a évoqué tout à l'heure dans nos prières. Nous avons besoin de parler à Jésus, de parler de Jésus. Nous avons besoin de louer notre Seigneur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur et Sauveur. Et je vous propose maintenant de le faire, de le louer si la louange monte dans vos cœurs quand vous considérez ce que la façon dont nous avons été créés, ces créatures si merveilleuses que nous sommes, et la façon dont Dieu a créé la vie, la façon dont il nous connaît, dont il nous a voulu, dont il a placé cette information, lui l'a placé. Rien ne peut, l'information ne peut venir de nulle part. Alors je vous propose de le faire maintenant. On a les musiciens qui sont là. J'avais pensé à un chant, on était dans les chants africains tout à l'heure, et ce chant qui dit « Comment ne pas te louer Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Il est très facile à apprendre. Et quand on l'a dans la tête, il est difficile de s'en débarrasser. Donc ce sera un bon chant. Je ne sais pas si Maurice a eu l'occasion de le passer à la guitare. J'ai une note aussi pour le piano. Alors ça fait comme ça. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Et on recommence. Vous l'avez jamais entendu?
Oui, c'est
à la mode. Un chant à la mode en plus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Créature merveilleuse, et tu as promis encore par-dessus tout cela un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera, une autre perspective pour un après pour nous quand nous serons, quand notre corps partira à lambeaux, il sera complètement usé, complètement vieilli, complètement vieux. Toi, tu nous redonneras la vie, tu nous mettras une nouvelle information, quelque chose de différent et de tellement plus beau que tout ce qui était avant. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.